marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Joseph Pontus, feuillet d'usine.
L'entreprise nous fournit une veste de froid. Donc pour les CDI, parce que les CDD, nous n'y avons pas le droit. Donc, je vais peut-être énumérer la tenue complètement. Donc on a une veste de froid, une blouse, un tablier, des bottes, donc dans lesquelles on met des grosses chaussettes pour avoir froid aux pieds. Donc ça, c'est nous qui les achetons.
Et l'eau est froide ?
Ah oui, tout ce qui est froid. Ah oui, oui, c'est froid. Donc souvent, on a des seaux, on met de l'eau chaude dans des seaux, puis souvent on trempe ses mains dedans. Enfin, c'est pas très bon non plus, parce que chaud, froid, ça provoque des injures.
La veste de froid pour aller à la crevette, retourner à la crevette. À l'heure parfois des pêcheurs du Guilvinec, mais pas de la même façon, non, dans une usine de froid. Où il n'y a pas que la crevette d'ailleurs. La langoustine, le crabe, la langouste autour de Noël, et le bulot, le plus con des coquillages. Puis, aller de l'odeur de mort de coquillage à l'abattoir. Le travail dans la viande cette fois. Nous serons aujourd'hui dans l'agroalimentaire breton. Joseph Pontus, qui est éducateur de profession, n'imaginait pas y travailler. Mais il a épousé une femme de la région. Ils vivent dans une maison non loin de la mer. Le jardin est plein d'hortensias et il faut bien gagner un peu d'argent pour entretenir l'amour. Joseph Pontus va donc être intérimaire dans l'agroalimentaire. Il ne part pas pour faire un reportage ni pour faire la révolution. C'est une période de transition. En attendant un vrai travail, se dit-il. Mais le travail à l'usine n'en est pas un faux. Certes pas, c'est même très dur. Cependant, il faut occuper la place qui est celle du moment, avec dignité, et en gardant dans la tête les noms, les mots, les chants qui font tenir debout. Luttant contre la fatigue, Joseph Pontus a rédigé ses feuillets d'usine, qui paraissent aux éditions de la Table Ronde. Il n'y a plus beaucoup de livres ouvriers. Celui-ci a une force peu commune et reçoit d'ailleurs un écho qui rassure sur l'époque.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Joseph Pontus, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous aimez beaucoup les noms des villes et des villages de France. Et là, vous en découvrez sans cesse de nouveaux en présentant à la ligne, c'est le vrai titre, du livre à la Table Ronde, de librairie en librairie.
Ouais, tout à fait. Je vais avoir la chance d'être à Oloron-Sainte-Marie, un petit village au pied des Pyrénées, à la librairie L'Escapade. Je vais avoir la chance d'être à Fort-Calquier. Fort-Calquier, qui est une ville très attachée à René Char, qui m'est cher, puisque c'était là où il a vécu un peu après avoir pris le maquis à ses restes. Donc, ça me fait penser un peu aux conscrits des 100 villages d'Aragon, tous ces noms de chapelets, de villes et de villages mélodieux que je vais écréner sur ma route de lecture.
Parce que vous gardez toujours un dictionnaire à portée de main. On va essayer de le faire d'ailleurs pendant cette émission. À portée de main, votre mère vous dit « T'avais des mains intellectuelles et maintenant tes doigts ont grossi ».
Ouais, ouais, ouais. La preuve, mon alliance, je suis obligé de la mettre à l'auriculaire. Parce que à force de tous les travaux pénibles que vous avez commencé à égrener, mes mains ont forci, effectivement.
Et au mot « intérim », je lis dans le Robert. Vous avez toujours le Robert, vous aussi, à proximité. Hein.
Pas que le Robert, le Grévis aussi. Hein.
J'ai noté, oui. Je note que c'est un mot qui apparaît au XXe siècle, qui se développe beaucoup. Vous êtes intérimaire, c'est-à-dire que vous dépendez des appels qui proviennent de votre agence. Il y a des fées dans l'agence.
Oui, il y en a. Ouais. Celle qui donne du boulot, évidemment.
Et puis, c'est elle aussi qui distribue les acomptes. Vous attendez le 11 du mois.
Nous sommes payés réglementairement le 11 du mois en situation d'intérim, mais effectivement, quand tout se passe bien, on peut demander un acompte pour le 31 du mois précédent.
Manpower, Françoise Mathieu, bonjour.
Oui, John. Encore, hein ? Ton portable était en panne hier, hein ?
Écoute, combien tu veux ?
T'as pas peur qu'il se sauve avec ton acompte, hein ? Bon. Tu veux combien ? Bon, soyez sympas, les gars, appelez-nous la veille. Hein ? Ok. Donc, toi, tu m'as dit 200. Ok ! Je vous prépare ça. Salut !
Les nuits magnétiques pour France Culture d'Alice Clément à l'époque, c'était il y a 20 ans. Il n'y a plus beaucoup de reportages ouvriers à la radio. On négociait en francs. Il y avait déjà les portables. Le portable en panne. Ou simplement le portable qu'on coupe parce que on est crevé, on rentre, et on fait la sieste.
On fait une sieste, le portable est éteint. Généralement, comme on embauche très tôt le matin, on fait la sieste en rentrant. Donc on embauche généralement vers 4 à 5 heures du mat maximum. Donc on fait la sieste entre 14 et 17 à peu près. Et l'agence d'intérim peut fermer à 18 heures. Donc si on rate un coup de fil de l'agence d'intérim, on est sûr qu'il y aura un autre intérimaire le lendemain qui nous remplacera parce qu'on n'aura plus de boulot.
Alors l'usine, commençons par l'usine de Froid. On est toujours dans le même reportage, il y a 20 ans, et on est en Bretagne, mais du côté féminin.
Vous avez des femmes de chaque côté du tapis, vous avez le poisson qui avance, donc vous prenez votre poisson, vous avez une cagette devant vous, vous y déposez les filets que vous faites sur 3 rangées, ensuite vous prenez votre cagette, vous la glissez et vous la repoussez pour qu'elle reparte donc sur une chaîne. Vous faites ça toute la journée. Toute la journée, c'est avec une pendule devant vous, évidemment, comme dans toute bonne usine. Vous avez une pendule d'un côté, une pendule de l'autre, c'est interminable. Avec en plus un bruit infernal. Puisque dans les usines, on est à la limite, ça doit être 80 décibels, je crois. On est toujours à la limite de ces 80, voire au-dessus. Donc avec obligation de porter des protections pratiquement dans presque toute l'usine.
Vous avez des casques ?
Des casques ou bien des choses qu'on met dans les oreilles, quoi.
D'où vient ce bruit ?
Les machines. Il y a des machines partout, en fait. Les fours, les tapis. Mais le bruit, c'est quelque chose d'effrayant.
Mais est-ce que le tapis a un rythme ? Il a une cadence, le tapis, ou pas ? Est-ce qu'on peut parler de cadence pour votre travail ?
On peut parler de cadence, puisque, bon, on nous demande quand même... Il y a un poids affiché tous les soirs. En fin de journée, donc il y a deux couleurs en fait, hein, c'est très simple, la couleur verte ça veut dire qu'on a bien travaillé, la couleur orange ça veut dire que c'est pas bon.
Ouais, les deux couleurs là c'est pour le suivi de l'intégration de l'opérateur de production, vous avez vu comment je parle bien avec les mots des nouveaux dictionnaires.
Vous pourriez DRH,
Jean-Lebrun. C'est pas un compliment ça je pense.
Non c'est très affectueux dans ma bouche. Non mais ce reportage à 20 ans c'est ça que vous me disiez, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'était hier en France en 2019. Rien n'a absolument changé. Il y a toujours effectivement ces tapis qui n'en finissent pas d'avancer et les objectifs de production avec... Alors maintenant, c'est vert et rouge ou vert et orange, c'est à peu près pareil. Mais maintenant, ils ont innové, ils ont mis des smileys. C'est-à-dire qu'il y a un petit smiley content si l'objectif est atteint et un petit smiley pas content qui grogne si l'objectif n'est pas atteint.
Il y a des affiches sur les murs aussi, dites-vous, qui concernent la protection sur le lieu de travail, le risque d'accident.
Hygiène et sécurité, officiellement.
On voit des smileys qui représentent la tête des salariés.
C'est ça, officiellement hygiène et sécurité, alors qu'on sait pertinemment que dans toutes les usines, il y a déjà un taux d'accident de travail de 10% supérieur à la moyenne nationale. Et a fortiori dans les abattoirs, comme on verra plus tard, où ce taux-là est encore supérieur de 20%.
Oui, mais on va en rester, si vous le voulez bien, d'abord aux petites bêtes que vous aimez. Alors, crevette, Robert, Rabelais, 1552. La crevette fait de petits sauts comme la chevrette en liberté.
Ouais. C'est bien que ça soit...
Vous avez regardé ça, vous avez fait dans Robert, dans Grévis.
Oui, je voulais savoir d'où venaient les... Quand remontaient les crevettes, quand même, ces petits animaux délicieux. Et effectivement, j'ai vu que c'était chez Rabelais, puis j'ai trouvé ça assez joli, parce que Rabelais, j'aime beaucoup le passage où le héros se torche avec le petit oisillon. Super mignon. Et je me suis dit que ça allait très très bien avec les odeurs de l'usine, en fait. Des proutes du héros, des odeurs de merde, de bulots, de crevettes écrasées. Et que ça remettait un petit peu de vie et de joie et de littérature dans cet endroit-là, quoi.
Bulots. Alors Robert dit que l'étymologie est extrêmement obscur. Il n'y a pas que l'étymologie.
Non, le trou du bulot est extrêmement obscur aussi. Et son odeur est particulièrement obscure aussi. Ouais.
La langouste, ça c'est à Noël.
Ouais. La langouste, c'était bien. J'ai réussi à trouver quelques planques pour en piquer quelques-unes et en ramener à la maison.
Alors ça s'appelle la perruque, ça, selon le dictionnaire.
La perruque, ouais, ça
s'appelle l'appropriation ouvrière.
La réappropriation ouvrière qui était plutôt en vigueur dans les années 60 et qui était plutôt en vigueur de manière collective. C'est-à-dire que c'était les ouvriers qui s'entendaient tous ensemble pour détourner l'outil de production pour se produire des choses pour eux. Alors que là, c'est plus de la perruque individuelle et pas de la perruque collective.
Oui, c'est un signe des temps qu'on observera avec d'autres que vous nous expliquerez tout à l'heure. Le coquillage peut répandre, vous venez de le dire, une odeur de mort. Mais alors, qu'exprimer de l'abattoir? Vous citez, avec force éloge mérité, le film de l'immédiate après-guerre de Franju, qui est tourné dans les abattoirs de Paris, à Vaugirard et à la Villette.
Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent, entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. Les outils de travail sont, suivant les animaux, le jonc ou roseau, le merlin anglais et le pistolet de Baer dont l'emporte-pièce foudroie l'animal par percussion. Après la saignée, le cheval est hissé au châble pour parfaire l'écoulement du sang. Il est ensuite redescendu pour être dépouillé. Le décollement de la peau par gonflage à l'air comprimé facilite l'opération. Les pieds détachés seront enlevés par des carisseurs, les sabots feront de l'engrais et les os serviront entre autres à la fabrication du noir animal ou à la confection d'articles de Paris. Le délicat ouvrage du fleurage à la lancette, couteau acéré comme un rasoir, n'est pas sans danger. C'est en fleurant un cheval qu'Ernest Breuillet s'est tranché l'artère fémorale. Il a dû être amputé de la jambe droite.
Vous n'auriez jamais imaginé ce qu'était une nuit à nettoyer le sang dans un abattoir de porc.
Non, à nettoyer le sang, à nettoyer les mamelles des vaches qui ont été tuées juste avant, à nettoyer la merde au sens propre, parce que les vaches ont été tuées juste après qu'elles ont eu peur et qu'elles ont chié une dernière fois. Là encore, j'avais pas vu le film de Franju qui date de 48. C'est en m'intéressant un petit peu à tout ce qui était autour des abattoirs que je l'ai découvert. Et ce qui m'a particulièrement fait halluciner, c'est que rien n'a changé dans les gestes, dans les souffrances, dans les techniques des ouvriers qui sont décrits. À part qu'il y a un petit peu plus d'électricité maintenant, donc il y a un peu moins de merlin parce qu'il y a quand même plus de scie électrique.
Ce qui n'a pas si changé que cela, c'est aussi le goût qu'on a encore pour la viande. Au temps de Vaugirard et de la Villette, on allait boire du sang chaud au petit matin. Et vous vous dites, je vais acheter de la viande à bas coût au supermarché de l'abattoir. C'est une viande à tomber par terre tant elle est bonne.
Ouais. Mais les vieux racontent encore que à leur époque, il leur arrivait de boire des bols de sang chaud quand ils étaient jeunes pour se donner du courage et de la force avant leur journée de travail, effectivement.
Alors vous n'aimez pas les commerciaux qui viennent inspecter les bêtes, les bouchers en revanche?
Il y a quand même une noblesse du travail manuel. C'est des métiers qui sont très durs et qui sont d'autant plus nobles qu'ils sont durs.
Le mot joie, vous l'employez à plus d'une reprise. Il peut y avoir, au bout d'un certain temps d'accoutumance à cette usine immense, dans laquelle on pourrait mettre plusieurs usines de froid, une joie.
Il y a la joie du travail bien fait, déjà, la joie d'avoir fini sa journée, la joie du week-end, et puis la joie de réussir à produire des textes comme autant de chapitres pour en faire un livre.
Parce qu'il y a le mot embauche, alors il y a le mot débauche. Je regarde dans le dictionnaire, le mot débauche... le plaisir. Mais vous l'entendez autrement. La débauche, c'est quand vous arrêtez.
La débauche, c'est exactement le contraire de l'embauche. On dit tous les jours qu'on embauche à telle heure, à 4h, à 5h, et on débauche à midi, 1h, ou plus tard s'il y a des heures sup à faire. Et effectivement, je trouve que c'est un très beau parallèle, c'est que l'heure de la débauche correspond, dans le langage courant, à celle de la débauche, c'est-à-dire on peut enfin se faire plaisir, retrouver une vie normale, ailleurs qu'à l'usine, ouais.
Sauf qu'on est très fatigué. Je vous propose, c'est une lecture un peu au hasard. Pas vraiment, parce qu'il ne faut pas donner une couleur crépusculaire non plus à votre livre. C'est après la débauche, le retour dans la maison, le jardin plein d'hortensias. La maison est non loin de la mer. Et votre femme a eu l'idée de vous offrir un chiot.
Oui.
Et maintenant, il a 3 mois. Et lui, en pleine forme quand vous rentrez le soir.
Il est en pleine forme, ouais. Et puis, d'autant plus en pleine forme qu'il trouve que je sens très bon en rentrant de l'abattoir. Forcément. Mon chien Poc Poc. Si tu savais en rentrant chaque jour comme ça me coûte d'aller te promener. Je suis au bord de l'épuisement, même pas au bord d'ailleurs, complètement épuisé, ravagé de fatigue, prêt à m'endormir sur place à peine mon retour. Mais en rentrant à chaque fois, la joie est même plus que la joie de te savoir derrière la porte, vivant, à frétiller de la queue et du popotin, à faire cette fête des retrouvailles. À peine le temps de me poser, faire descendre la pression, boire une bière, il faut aller se balader, même si je n'en peux plus, même si parfois je pleure littéralement de fatigue. Mais tu n'y es pour rien, jeune chiot de 6 mois dans ces histoires de tuerie d'humains. Tu veux juste courir, jouer, agripper l'océan sur la plage où nous avons coutume d'aller, rameuter les oiseaux, creuser le sable encore et encore, ramener des bouts de bois, des algues et encore courir et jouer. Qui comprendrais-tu si je te racontais exactement l'abattoir? Ton regard changerait-il sur moi? Me considérerais-tu comme un agent de la banalité du mal, un salaud ordinaire, celui qui accomplit sa tâche de maillon de la chaîne dégueulasse et s'en dédouane pour plein de bonnes raisons? C'est peut-être atroce à dire, mais les chefs me demanderaient de tuer les bêtes, que je le ferais, il faut bien bosser. J'entends parfois à la pause les gars qui sont à la tuerie, leur serrent la main, discutent un peu. Ils n'ont l'air ni pire ni meilleur que moi. Ont les yeux aussi lointains et fatigués, non ceux de barbares sanguinaires. Peut-être, sans doute, certains ont-ils un chien qu'ils chérissent, je ne sais pas. L'usine bouleverse mon corps, mes certitudes. Ce que je croyais savoir du travail et du repos, de la fatigue, de la joie, de l'humanité. Allez, poc-poc, encore quelques minutes de balade, je suis fatigué, je n'en peux plus. Demain, ça ira mieux. Demain, mon poc-poc, je te jure, si tu savais, demain.
La joie en même temps que la fatigue, la joie, on peut la garder dans la tête. On a des chansons.
La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi 4 planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sort. Je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les roses, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Joseph Pontus, 2 ans et demi de travail d'intérimaire dans l'agroalimentaire, un livre à la ligne aux éditions de la Table Ronde où vous répétez plus d'une fois que sans les mots qui vous ont accroché pendant vos études et sans les chansons, et particulièrement les chansons de Trenet, vous auriez peut-être tenu mais pas debout.
Tout à fait. C'est une merveille. Enfin, à chaque fois que j'écoute La Folle Complainte, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Cette fin-là, Poussière était mon nom. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, mon Dieu. Et puis Trenet, il apporte de la joie. Il apporte de la joie tout le temps. Non, effectivement, j'aurais pas tenu parce que au plus loin que l'épreuve avance, il faut aller chercher au plus loin ses ressources intérieures, morales, pour pouvoir tenir. Et donc moi, effectivement, c'est les mots. Il y a des collègues, c'était leur famille, c'était d'autres passions, la plongée sous-marine. Mais moi, c'était effectivement les grands textes dont je me souvenais, les chansons qui me faisaient vibrer. Et
ce poète de la Pléiade que vous citez, qui n'est pas le plus connu,
Pontus de Thiars,
et qui dit qu'il faut se tenir en toute humilité, honorer la langue.
Ouais, ouais, ouais. C'était un de mes ancêtres. Sinon, je suis très très fier quand même. Voilà, je m'appelle pas Dubellet, je m'appelle pas Ronsard, mais je m'appelle Pontus, c'est pas mal non plus quand même.
Je peux vous raconter une histoire?
Ah, avec plaisir.
Un jour, après avoir fait une émission à Paris sur l'histoire littéraire du sentiment religieux.
Oh.
De l'abbé Brémond, 7 volumes. À Rennes, le lendemain, se pointe
un ouvrier des abattoirs de la Gerge de Bretagne. Et il a entre les mains un volume de Michel de Certeau. Grand historien du XVIIe siècle. Et il me montre un texte, ça s'appelle « La consultation de l'illettré ». Le père Surin, personnage des livres de Michel de Certeau, tombe en panne de carrosse, il verse, et dans le fossé qu'il recueille, il y a un illettré. Et cet illettré dit au père Surin ce que le père Surin cherchait depuis si longtemps à formuler. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte des histoires d'abattoirs et d'illettrés.
Le permis de conduire, aujourd'hui, dans ce pays, il coûte en moyenne 1500 euros. Il faut attendre plusieurs mois, parfois plusieurs années, avant de pouvoir le passer. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 kilomètres. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1500 euros, il faut attendre un an. Voilà, ça sont des réformes du quotidien. Et ça sont des réformes qui créent de la mobilité, de l'activité.
Il y a 5 ans, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Déclarations qui ont provoqué un certain émoi dans les usines de Bretagne.
Et d'ailleurs,
travailler.
Je sais qu'on a suivi à peu près le même parcours avec le président de la République en exercice.
Vous voulez dire que vous avez raté Normal Sup?
Ouais, c'est ça. On a fait une prépa littéraire. On a raté Normal Sup, comme à peu près tout le monde qui a suivi une prépa littéraire. La suite de nos parcours de vie ont été différentes. Ça me fait très plaisir qu'un illettré qu'il présume que je crois être, puisque je travaille dans un abattoir, soit édité à la Table Ronde, prestigieuse maison d'édition historique. Et ça me fait très plaisir que mes collègues, soi-disant illettrés, élu et apprécié mon livre, se soit senti fier à la lecture de ses pages.
La question de la mobilité, il a quand même raison, le futur président de la République, de la poser. Parce que vous dites combien c'est difficile pour vous de rejoindre
les lieux
de travail qui changent, effectivement, qui sont affectés par l'agence d'intérim.
Effectivement, les usines sont à l'extérieur des villes, tout comme on a mis les cimetières à l'extérieur des villes pour pas montrer un petit peu la mort de près. Et de fait, oui, il faut toujours... à défaut d'une voiture, trouver des arrangements pour pouvoir aller au boulot, effectivement, mais on s'arrange toujours quand on veut travailler.
Oui, alors on peut prendre le taxi, une fois ça vous arrive, vous parvenez en douce à l'usine parce que vous voulez pas vous montrer, et le chauffeur de taxi vous demande si vous êtes un patron pour vous rendre comme ça, par un moyen de transport aussi coûteux sur votre lieu de travail, mais il y a le covoiturage.
Ouais, effectivement, ouais. Sauf que quand on est en intérim, les heures de travail sont tellement fragmentées, et dépendent de tellement de facteurs, à savoir les envies des chefs, les besoins de l'agence d'intérim, que quand on peut s'organiser avec des collègues, des fois ça tombe à l'eau. Et ils vont être affectés à une autre mission ou sur une autre usine, et c'est pour ça que j'ai dû me résoudre effectivement à prendre le taxi une fois pour aller bosser, pour pas perdre mon boulot et la confiance de l'agence d'intérim, effectivement.
Vous remerciez à la fin du livre vos copains qui vous ont assuré le covoiturage. Ouais. Je dis copains, mais ça c'est un mot qu'on utilisait dans les syndicats. C'est un mot qu'on utilisait autrefois. C'est un mot que je n'utilisais pas.
Non, on parle d'amis plutôt. On parle d'amis à partir du moment où on estime les capacités de travail du collègue avec lequel on travaille.
Vous parlez de collègue.
Oui, de collègue souvent, ouais, bien sûr.
Et le collègue, vous le protégez si dans votre binôme, il fait pas son job, mais vous n'allez pas demander le secours du chef ou un avertissement du chef pour vous plaindre de lui.
Non, pour autant pas, parce que moi c'est ma petite condition que j'interroge par rapport à ça, c'est pas la responsabilité du collègue qui travaille mal ou qui est complètement déconnant. Donc ça me permet de m'interroger sur moi, le rapport que j'ai pu induire avec d'anciens collègues de travail quand j'étais travailleur social par exemple.
Votre livre il est pas explicitement politique, beaucoup moins que, je ne sais, La condition ouvrière de Simone Veil à la veille du Front populaire. Un livre comparable par certains aspects. Cependant, vous exprimez une colère politique. Bon sang, si j'avais une semaine et les moyens d'aller rejoindre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes.
Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que, voilà, il faut toujours savoir d'où on parle. Et moi, je parle en tant qu'intérimaire. C'est-à-dire que la moindre journée manquée me fera ne plus avoir de boulot. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des collègues titulaires en CDI qui étaient en grève sur certaines journées, Et c'est à ce moment-là que les chefs demandent aux intérimaires d'assurer encore plus de RAB et encore plus d'heures sup pour pallier justement l'absence des grévistes.
Mais alors le collègue en CDI qui est gréviste et qui défile derrière le panneau CGT abattoir.
Oui.
Vous y pensez? Ah ben oui. Vous êtes obligé de travailler et que je lui défile.
Je rêve d'être à sa place, effectivement. Ouais. Je rêve d'être à sa place. Mais je sais que si je me mets en grève une journée alors que j'ai officiellement le droit, j'ai plus de boulot le lendemain.
Je voudrais vous faire entendre, je ne sais si vous la connaissez, la voix de Thierry Metz, autre grand auteur, le journal d'un manœuvre que vous citez.
Le travail sur le chantier, oui, c'est un travail qui demande toute la présence physique, mentale, qui vous bouffe. Et à la fois, c'est comme une exclusion, en quelque sorte. On est quelque part, mais on n'a pas l'impression que ça ait un sens, en quelque sorte. Parce que c'est toujours de la besogne. On a l'impression que c'est quelque chose qui ne finira pas, qui n'a pas de but, et qui emprisonne, qui incarcère l'individu dans ce qu'il est. C'est facile de regarder extérieurement, il m'est arrivé de le faire, un chantier comme ça, de voir les hommes engagés dans toute une série de gestes, très précis d'ailleurs, et s'engluant finalement dans leur construction, faisant partie intégrante de ce travail. Leurs vêtements d'ailleurs sont très lisibles, leurs mains, leurs visages. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens d'exprimer tout ça. Mais moi, parce que je viens avec l'écriture, parce qu'il y a une parole possible, toute poésie c'est une parole possible justement, je me dois d'en témoigner. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une mission? Je ne sais pas, mais un témoignage en tout cas. Et un témoignage d'exigence. Ne pas laisser toutes ces choses nous passer sous le nez, finalement, alors qu'elles sont notre vie. Elles sont nos instants. Elles sont la nourriture. Le malentendu serait de faire du manœuvre quelqu'un de misérable. Et de faire de son journal un livre ouvriériste, misérabiliste, de militantisme. Non, c'est pas ça. C'est cette écriture qui cerne l'instant, qui cerne le dérisoire. Mais est-ce dérisoire?
Waouh, là, vous pouvez pas savoir, Jean Lebrun, à quel point je suis ému. Parce que c'est la première fois que j'entends la voix de Thierry Metz. J'ai découvert le journal d'un manœuvre au milieu de l'écriture de À la ligne. Et je me suis tout de suite dit, ce mec est un génie, il a tout capté. Et à l'entendre là, c'est comme si tout ce que je pouvais dire après, j'aurais l'impression d'être un perroquet qui bégaye, quoi. Je vais pas redire.
C'est-à-dire qu'il a le même projet que vous avez.
Mais complètement, complètement. Et qu'est-ce que c'est beau ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Merci. Je suis très touché.
C'est bien de me dire merci. Comment vos employeurs ont-ils réagi quand vous avez eu la drôle d'idée de leur envoyer les épreuves de votre livre? Ils ont dit merci?
Ah ben, ils m'ont dit merci, au revoir. Ouais, effectivement, ils m'ont remercié au deuxième sens du terme. Voilà, je leur avais envoyé un exemplaire du service de presse avant parution, pensant qu'ils allaient être au courant à un moment donné. Je leur avais envoyé par loyauté, comme dit ce génie de Thierry Metz, pas pour dans une perspective misérabiliste, ni ouvriériste, mais vraiment dans une démarche littéraire. Et 15 jours plus tard, j'ai appris que mon contrat d'intérimaire n'était pas reconduit.
Bah, moi, ça me rassure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'illettré à la tête des abattoirs.
Je pense que c'est une certaine façon d'illettrisme que de mal savoir lire un livre. Parce qu'il n'y a rien qui dénonce là-dedans, bien au contraire.
Je peux vous poser une question personnelle?
Bien entendu.
Votre mère.
Ouais.
Votre mère ne comprenait pas pourquoi vos doigts forcissaient. Et elle disait, mais bon sang, t'as pas envoyé en Cagne pour que tu sois dans l'agroalimentaire en Bretagne?
Ben ouais, mais paradoxalement, c'est ces études-là qui m'ont permis de tenir là-dedans et de m'en échapper par le haut, par la littérature.
À la ligne, aux éditions de la Table Ronde. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, avec à la réalisation Audrey Ripouille. La technique, c'était Nicolas Cazot.